Et du coup, voilà. Donc, je pense que toutes les religions monothéistes font allusion au mariage parce que vraiment, c'est une institution divine, c'est une institution importante. Bon, on va dire, c'est ce à quoi on doit chercher à aspirer quand on est dans une relation avec quelqu'un. Mais bon, ça, je vais venir dessus après. Donc, en général, dans la Bible, on ne fait pas forcément face avec des mariages avec la notion d'être amoureux. Mais je pense que c'est aussi à cause de l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Genre, c'était plus des mariages arrangés, des mariages de famille pour répondre à certaines conditions, etc., etc. Mais je pense que pour pouvoir envisager une relation amoureuse avec quelqu'un, ou pour savoir que vous êtes vraiment amoureux d'une personne, je pense qu'il y a quand même trois critères à remplir. Donc je vais essayer d'expliquer chacun de ces critères, mais sans trop déborder pour que ce soit assez concis. Donc numéro 1, il y a ce que les Grecs appellent Eros. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie grecque et tout. Donc quand j'ai l'occasion de placer ça quelque part, je viens
C'est le
placer.
bon moment.
Donc Eros, c'est l'amour charnel, l'amour sensuel. Donc est-ce que tu ressens une attirance physique avec il ou elle? Parce que l'air de rien, je pense que c'est quand même important. Quand tu lis un livre comme Cantique des Cantiques, donc Cantique des Cantiques, c'est un livre de la Bible qui est vraiment pas très long, genre ça doit faire 10 pages et c'est des poèmes en fait. Le thème fondamental de ce livre-là, c'est le désir qu'ont un homme et une femme de se rencontrer et de se découvrir jusque dans la plus grande intimité de leur relation d'amour. Donc on fait face dans ce livre, c'est assez particulier à lire parce que ça n'a aucun rapport avec les autres livres de la Bible. Genre vraiment c'est assez particulier. Et on fait face à une fille et un homme qui chantent la beauté et le physique de l'autre. Comme si aimer et se savoir aimer rend toute chose belle ou parfaite. Et en fait, ils partagent un amour qui est quelque chose de fort et d'intangible et qui va les pousser à toujours se chercher. Et lorsqu'ils vont se perdre, ils vont littéralement tout faire pour se retrouver. Donc, dans ce livre, il n'est pas forcément directement question de Dieu, mais je pense que s'il est dans la Bible, c'est parce que ça veut montrer que le côté physique dans la relation est important. En d'autres termes, est-ce que quand tu vois la fille, elle coupe ton cœur? Est-ce qu'elle met ton cœur dans la joie? C'est une question à laquelle il faut chercher à répondre. Et puis c'est pareil pour les filles, genre avec les garçons en fait. Et en même temps, Cantique des Cantiques, ça rappelle des idées fortes. Par exemple, il y a le verset qui dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. » Ou bien, il y a un autre verset qui dit « L'amour est aussi fort que la mort. » Bon, je vais pas développer les versets, comme ça on va aller vite, mais je pense que les
En tout
versets sont quand
cas.
même assez clairs. Donc, on a d'abord l'amour charnel, donc Eros, et ensuite on a la philia. La philia, c'est l'attachement amical, c'est l'amour fraternel. Est-ce que tu aimes passer du temps avec cette personne? Est-ce que tu aimes sa compagnie? Est-ce que son absence fait la différence? Est-ce que quand quelque chose t'arrive, tu penses direct à lui en parler? On a parlé en long et en large, de l'ami fidèle et authentique. Donc, est-ce que cette personne est un ami fidèle et authentique pour toi? Est-ce que tu aimes sa façon de penser, de voir la vie, de gérer les situations compliquées, de te gérer, etc., etc. Et enfin, on a l'agapé, qui est l'amour inconditionnel et qui nous ramène vraiment à la conception chrétienne de la relation. Donc, aimer inconditionnellement, c'est décider d'aimer parce qu'on a choisi d'aimer. Est-ce que tu continuerais de l'aimer si elle perdait toute sa beauté? Si elle devenait sourde? Là, je prends vraiment des cas extrêmes pour que vous voyez. Est-ce que tu
Ouais,
continuerais de
et c'est
l'aimer?
important.
Ouais. Est-ce que tu continuerais de l'aimer si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, si le gars perdait son statut social, s'il perdait le physique que tu aimes? Est-ce que tu l'aimerais dans son entièreté pour ce que il ou elle est? Et du coup, pour cet amour en mode agapé, on a l'exemple de Marie et Joseph, donc les parents de Jésus, parce que je pense que Marie et Joseph étaient des gens qui avaient quand même un attachement amical. Par exemple, quand Joseph a appris que oui, elle allait être enceinte de Jésus, alors qu'ils se sont jamais touchés rien, il a décidé de la répudier en secret parce qu'il voulait pas l'humilier. Donc c'est quelqu'un qui l'a considéré, c'est quelqu'un qui on va dire, il voulait pas lui mettre la honte en fait.
Ouais,
Il
c'est
voulait pas
ça.
lui mettre la honte vis-à-vis d'une situation que lui-même, bon, il comprenait pas trop. Parce que je pense que rationnellement, à la place de Joseph, ta femme vient te dire que oui, je vais avoir un enfant sous l'action de l'Esprit Saint, etc., etc. Bon, tu vas vraiment la regarder en mode, elle dit quoi?
Elle dit quoi celle-là?
Qu'est-ce qu'elle dit? Et du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était un exemple intéressant. Et tout ça, c'est pour dire que si vous parlez avec une personne et que la personne ne remplit pas ces trois critères en même temps, je pense que ce serait quand même bien, genre, d'analyser pour voir ce qu'il en est. Vous pouvez être amoureux sans réunir ces trois critères en même temps, mais moi, je pense que c'est intéressant de réunir ces trois critères en même temps pour, genre, vraiment être amoureux et tout. Ensuite, il y a une vision de l'amour qui est aussi un verset qu'on a vu et revu. Peut-être tu as déjà vu. Quand je vais lire ça, tu vas me dire si tu as vu ou pas. En tout cas,
Ouais,
c'est 1 Corinthiens 13, des versets 4 à 7. Donc, l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bon, ça, c'est la vision de Paul de l'amour. C'est une vision qui est très discutable parce que parfois tu es là et tu te dis, est-ce que l'amour peut vraiment tout excuser? Est-ce que l'amour peut vraiment tout croire? Est-ce que
ça, c'est
l'amour
ma question,
peut... Est-ce que tu peux vraiment tout
hein.
supporter au nom de
Ah
l'amour?
ben
Parce que là, Paul a dit beaucoup de choses sur l'amour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas dit que l'amour est bête. Donc, dans les relations amoureuses, il faut vraiment chercher à ce que ce soit quelque chose de réciproque. Parce que moi, je pense, et ça, j'en suis profondément convaincue, et je suis sûre que Neissa va être d'accord avec moi, si un garçon est réellement amoureux de vous, vous allez savoir.
oui.
Vous allez
Ça,
savoir.
vraiment, je suis d'accord.
Vous allez savoir.
Les gens aiment trop se voiler la face.
Alors
C'est
là, non,
vraiment,
franchement,
genre,
franchement, ils aiment
c'est
trop
pas
se voiler la
possible.
face. Alors que si le gars est amoureux de toi, je vous assure que vous allez savoir. Vous n'allez pas avoir besoin de vous poser 40 000 questions pour savoir. Et je pense que c'est pareil avec une fille. Si une fille vous aime vraiment, vous en aurez la conviction. Vous n'allez pas pouvoir douter de son amour. Donc si vous êtes dans une situation ambiguë avec une personne, donc ambiguë, c'est tout ce qui est flirt, oui, on n'est pas ensemble, mais c'est ambigu entre nous, quoi, quoi,
Tu préfères les chats ou les chiens?
quoi,
Les questions bêtes.
quelle est ta couleur préférée?
Je
Oh
t'ai
là là. Mais du coup, voilà. Donc, si vous êtes dans une situation ambiguë avec une personne, et si l'amour que vous ressentez pour cette personne, enfin, ou l'amour que vous croyez ressentir pour cette personne, n'est pas synonyme de paix, s'il est difficile, s'il est douloureux, compliqué, dangereux, stressant, étouffant, cruel, bref, reposez-le, parce que c'est une contrefaçon. C'est pas de l'amour. Et c'est peut-être un signe même que Dieu n'approuve pas la relation. Maintenant,
Toi.
au début, Neyssa a expliqué que enfin, chez les musulmans, soit tu es marié, soit tu es célibataire. Et si tu es célibataire, tu es célibataire. Il n'y a pas à
Il
faire
y
de...
a pas flirt, il y a pas
Voilà, il n'y a
truc.
pas flirt, il n'y a pas on se met en couple, il n'y a pas des... Bref, toutes les situations, olé olé, il n'y a pas ça. Et du coup, moi je pense que la Bible ne punit pas entièrement les relations amoureuses qui sont hors mariage. Parce que par exemple, dans Cantique des Cantiques, qui est le livre que j'ai cité tout à l'heure, il n'y a aucun moment où on présente les protagonistes comme étant mariés. On les présente même comme étant jeunes. Mais je pense que il faut vraiment que l'objectif soit le mariage. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple juste pour vous mettre en couple.
Pour le fun.
Sinon vous êtes hors la loi. Voilà. Vous êtes en gros hors la loi. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous mettre en couple pour vouloir, comme a dit Nissa, grandir ensemble, viser loin, accomplir de grandes choses ensemble. Et ça passe vraiment par la perspective de on se met ensemble pour le long terme parce que on veut se marier. Si les choses avancent et que, on va dire par extraordinaire, je sais pas moi, vous apprenez à vous connaître et vous vous rendez compte que vous vous entendez bien, mais vraiment vivre ensemble comme ça tous les jours de votre vie, ça va être un peu compliqué. Vous vous laissez. Mais il faut vraiment que cette idée de mariage soit au centre de votre relation. Et puis aussi, comme Neissa a dit, il y a vraiment le côté de tu te maries avec un gars qui va te faire grandir, non seulement dans tes projets, dans la vie de tous les jours, mais aussi spirituellement. Donc il faut que vous ayez la même conception, on va dire, spirituelle des choses. Parce que, je vais dire, je pense qu'il faut que vous ayez la même foi. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, je pense que la religion, c'est vraiment genre une organisation de la foi par rapport à ce en quoi je crois. Et du coup, ça fait que si vous n'avez pas la même foi ou que vous avez des convictions qui sont diamétralement opposées, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Peut-être quand vous allez être jeune, vous allez avoir 19, 21, vous allez vous blaguer. Vous allez vous blaguer. Vous vous dites que non, on va surmonter ça. Ou bien, en général, quand vous êtes jeune, vous allez même éviter la question. Quand tu sais qu'il y a une question qui pose problème dans ton couple et puis que vous n'arrivez pas à être d'accord dessus, en général, vous n'allez pas discuter la question. Vous allez être dans le déni, vous allez faire comme si la question n'est pas là. Mais quand tu te retrouves marié avec la personne, vu que c'est ça l'objectif, il y a des sujets que tu peux plus éviter. Surtout à partir du moment où tu te retrouves à avoir des enfants et qu'il faut élever les enfants, il faut leur inculquer des valeurs.
Clairement. Oh my God.
Ça va commencer à être un peu compliqué. Et du coup, avant de continuer sur tout ce qui était relation hors mariage, je voulais faire une petite aparté pour les célibataires.
Il faut parler,
c'est important. Parce que...
On n'a pas quoi encore.
Pour être en couple et puis pour se marier là, faites célibataire d'abord. Donc, il faut bien profiter de cette période. Genre vraiment, l'air de rien. Moi, je peux comprendre que... On soit pressé d'être en couple, etc. Mais il faut pas la faire du célibat. Il faut la tirer à bon escient.
Ouais, faut pas brûler les étapes. C'est ça. Faut accepter les choses telles que,
c'est
telles
ça, que en ça fait. Vient, en fait. Telles que
Parce
ça
que
vient.
Parce que la personne, comme tu l'as dit, dans le christianisme et dans l'islam aussi, la personne que tu choisis doit être quelqu'un d'important. Genre, tu dois bien choisir la personne. Parce que, le but, c'est le mariage et le but, c'est de te faire avancer. Donc, si tu te précipites juste parce que tu n'as pas envie d'être célibataire, tu n'as pas envie d'être seule, mais c'est clair que tu vas tomber sur quelqu'un qui va, te mettre plus bas que terre. Et genre, généralement, dans les sociétés africaines, on va dire que non, qu'il faut rester, que c'est ton mari, tu dois accepter, que nos parents, là, tu savais ce qu'ils vivaient, mais donc, finalement, tu vas rester là. Pour ne pas que les gens disent que ouais, celle-là, elle est divorcée et tout et tout. Donc franchement, je me dis que pour éviter ce genre de truc, profitez du célibat pour observer. Genre, c'est pas, c'est pas une malédiction, vous aussi. Profitez, il y a quoi même. Mais sachez profiter. Profiter ne veut pas dire genre faire des bêtises, genre butiner partout et tout. Profitez de tous les garçons. Et puis quand tu as fini, choisis le bon
pour avancer.
Non. C'est profiter pour apprendre de toi-même. Genre savoir ce que toi-même tu recherches dans la vie. Parce que comme l'épisode sur l'amour de soi, si toi-même tu te connais pas, comment tu vas savoir ce qui te plaît, ce qui te convient? Donc, profitez de la période du célibat pour apprendre à vous connaître avant de vous tourner vers un homme ou une femme pour vous attacher et faire de lui ou d'elle votre vêtement.
Voilà. C'est ça. Parce que dans la vie, on ne porte pas n'importe quoi. On n'est pas dit n'importe qui.
On ne porte pas n'importe qui, en fait.
Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, la petite aparté pour nous, les célibataires. Déjà, tout à l'heure, je vous ai dit que dans... Enfin, je vous ai cité deux versets. Ne réveillez pas l'amour avant l'heure et confie-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Je pense que les versets sont clairs. Ne donnez pas à votre chair ce qu'elle veut. Cherchez à faire ce que Dieu veut. Sachez que vous n'êtes pas un problème et que vous n'avez pas à vous remettre en cause ou à remettre en cause votre valeur par rapport à votre relation amoureuse. Au fait que, par exemple, personne ne vous drague, que tout votre entourage est en couple et pas vous. Et il faut que vous gardiez vraiment à l'esprit que Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous et que, malheureusement, il ne nous demande pas de comprendre le plan. Parce qu'il a vraiment les meilleurs plans pour nous. Et je pense que ce que Naïssa a dit, ça souligne vraiment le fait que vous ne devez pas attendre d'être en couple pour commencer à travailler sur vous et chercher à atteindre vos objectifs de vie pour vous améliorer. Il faut que vous deveniez la meilleure version de vous-même avant, en guillemets, d'être en couple. En tout cas, a priori, c'est pas que vous allez être en couple avec quelqu'un, que vous allez commencer maintenant à travailler sur vous. Et du coup, pour remonter un peu le moral de toutes ces personnes célibataires, bon, même si vous êtes en couple, moi je vous invite quand même à ne pas skip cette partie. Ouais. Mais j'ai choisi une histoire de la Bible qui est l'histoire de Ruth et Boaz. Et c'est une histoire qui est racontée dans le livre de Ruth. Et je trouve que c'est une histoire dont on ne parle pas assez. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, pour moi, c'est le fait que l'on observe la rencontre de deux personnes en fait célibataires qui ne s'attendaient pas à l'amour ou à être en couple. Et c'est différent en fait des autres histoires où on présente déjà des personnages qui sont déjà en couple. C'est-à-dire que c'est différent de Marie et Joseph qui sont déjà en couple quand on les découvre. C'est différent d'Abraham qui est déjà en couple avec Sarah. C'est différent en fait des histoires classiques de la Bible. On fait face à des personnages qui sont d'emblée déjà en couple. Et c'est aussi différent d'histoires comme Jacob et Rebecca, où on a juste un Jacob, il est tombé amoureux de Rebecca, il a travaillé pour l'avoir, etc., etc., sans plus de détails. Là, je pense qu'il y a quand même des détails intéressants, et on voit l'évolution de deux personnages, et moi, c'est ce qui me touche. Mais après, comme je vous ai dit au début, il n'en faut pas beaucoup pour me toucher. Donc, voilà. Il faut savoir que Ruth, qui est du coup le personnage principal, c'est une Moabite. Donc, elle vient du pays de Moab, et elle est considérée comme une fille idolâtre, et ennemie d'Israël. Pour une petite contextualisation, il faut savoir que Ruth a une belle-mère qui s'appelle Naomi. Et il s'avère que Naomi est veuve, elle est âgée, elle a perdu ses deux fils, elle a perdu son mari. Et du coup, Ruth était mariée à un de ses deux fils qui est mort. Et Ruth s'est retrouvée aussi veuve. Et du coup, vu que Ruth et Naomi n'avaient plus rien, Naomi a décidé de rentrer dans son pays. Parce que, bon, on va dire, elle n'avait rien d'autre à faire. Et du coup, Ruth lui a dit qu'elle allait la suivre. Ruth a dit, ah, je vais rester avec toi, Naomi. Je vais prier ton Dieu. Je vais te protéger. Parce que, bon, Naomi était comme une tata qui était assez âgée, etc. Donc, Ruth a décidé de rester avec elle. Et elle a décidé de la suivre malgré tout jusqu'à ce que soit la mort qui les sépare. Et moi, déjà, je trouve que c'est hyper mignon parce que ça prouve qu'elle s'est attachée à sa belle-mère. Et puis, ça prouve que... Quand tu te maries avec quelqu'un, il faut vraiment que tu acceptes la personne dans son entièreté, donc avec sa famille. Il faut que tu restes, tu sois attaché à la famille de la personne, en tout cas que tu considères la famille de la personne et que la famille de la personne en retour te considère aussi. Parce que je pense que si Ruth a choisi de suivre Naomi, c'est que au-delà du fait que Ruth aimait bien Naomi, Naomi l'aimait bien aussi. Donc voilà, c'est comme ça que Naomi et puis Ruth vont partir à Bethléem. Et puis c'est là que l'histoire va devenir intéressante parce que c'est là-bas qu'elle va rencontrer Boaz. Du coup, Boaz, c'est le garçon de l'histoire. Voilà. Donc c'est une histoire qui est vraiment très courte. Il y a 4 chapitres. Donc je vous invite à lire pour vous faire votre propre avis. Et moi, quand j'ai lu, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Ruth et Boaz, séparément, ne cherchaient pas l'amour. Ce n'était pas un objectif de vie pour eux. Donc il faut que vous sachiez que je pense que il faut que vous mettiez aussi à l'esprit qu'il y a des personnes qui vivent leur vie très bien et qui sont célibataires. Se marier, c'est bien, ça peut être un objectif de vie, mais je pense que ça ne doit pas être votre objectif premier. Dans le sens, il ne faut pas que vous vous dites que si vous n'êtes pas marié à, je ne sais pas moi, 27 ans, parce que même 27 ans, c'est tard, c'est une personne, parce que maintenant, les jeunes se marient tôt. Donc, faut pas que vous vous dites à 27 ans que si vous n'êtes pas marié, ça veut dire que vous allez échouer votre vie. Ce n'est pas vrai. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, Ruth était une femme de valeur. Elle était débrouillarde, elle était battante, elle était persévérante. C'était vraiment une bosseuse. Et c'est ce qui l'a rendue, on va dire, intéressante aux yeux de Boaz. Parce que Boaz a vu en elle une femme différente. Donc, les filles, cherchez à être cette femme différente. Cherchez à faire ressortir votre propre personnalité parce que vous êtes une personne unique. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez travailler sur vous-même et faire ressortir vos meilleurs côtés, votre différence va forcément se sentir partout où vous allez aller. Et Ruth n'a pas attendu d'être en couple pour être la femme qu'elle voulait être. Donc, n'attendez pas d'être en couple pour être la femme que vous voulez être.
Oh, voilà. C'est ça, ouais.
C'est ça.
Allez fort.
Voilà. Voilà. Donc, ensuite, il y a le côté où Ruth a vraiment rencontré Boaz par hasard. Ruth était partie, du coup, avec Naomi dans le pays de Bethléem. Comme Naomi était fatiguée, elle avait faim, Ruth a dit, bon, je m'en vais m'occuper un peu du blé, là, je vais te ramener de la nourriture. Et elle est tombée dans un champ où elle a commencé, du coup, à récolter. Et il s'avère que c'était le champ du gars. Donc, la Bible même présente vraiment leur rencontre comme le plus grand des hasards. Et ça souligne aussi que le malheur n'est pas une fatalité. Parce que, comme je vous ai dit, Ruth, c'est une veuve. Donc, les douleurs ne symbolisent pas la fin et peuvent se conclure avec un avenir heureux et encore plus grand. Maintenant, quant à Boaz, faut savoir que moi, ce que je trouve intéressant dans le personnage de Boaz, c'est que c'est quelqu'un d'observateur. Déjà, si c'était pas quelqu'un d'observateur, il n'aurait même pas vu la présence de Ruth. Parce que Ruth, elle est Je veux pas dire qu'elle allait se cacher, mais en tout cas, elle s'est mise un peu à l'écart pour ne pas trop attirer l'attention, pour faire ce, c'est ça, pour faire ce qu'elle avait à faire et puis partir. Donc, Ruth, c'est quelqu'un, plutôt Boaz, c'est quelqu'un d'observateur, au point de pouvoir constater que, ah, elle est différente des autres. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'organisé, parce que c'était le propriétaire du terrain, c'était le propriétaire des servantes, et on peut dire des servants aussi. En tout cas, tous les serviteurs, c'est lui qui les gérait. Donc, voilà, c'était quelqu'un de profondément bon. Il a vu en Ruth une femme de valeur, et il a donc permis à Ruth d'être libre, en fait, sur le champ, tant que André, ça pouvait subvenir à ses besoins, etc. Et aussi, je pense qu'il a vu en Ruth, donc comme j'ai dit, une femme de valeur, une personne qui pourrait le faire avancer dans la vie par son aide et à qui il pourrait en retour faire du bien. Je pense que, c'est un peu peut-être abusé de dire ça, mais moi vraiment, je pense que quand il a regardé Ruth, il a vu Dieu en elle. Il a vu que Dieu était avec elle et il a vu que c'était une femme, si je peux dire, une femme pieuse. Et il a du coup vu que c'était une personne qui pourrait aider en retour en lui accordant un statut et en la faisant sortir du veuvage. Je pense que cette histoire de... C'est pas que vous devez vous marier par intérêt, mais il faut que vous regardiez ce que la personne peut vous apporter et ce que vous, ouais, puissiez, vous pouvez apporter à la personne. C'est ça qui fait que vous vous complétiez. Si vous deux, vous êtes la même chose, vous n'allez pas vous compléter.
Vous n'allez pas avancer.
Si vous êtes trop différent aussi, vous n'êtes pas compatible. Donc il, ouais, faut que chacun ait... On va dire un peu de ce qui peut, voilà. Il faut de l'eau froide et puis de l'eau chaude fait de l'eau tiède.
C'est ça même.
Voilà. En gros, c'est vraiment ça. Donc, là, on va dire ce qui se passe dans cette histoire. Parce que je vais littéralement vous raconter tout le livre, hein, comme c'est que 4 chapitres. Donc, Naomi va... Donc, Ruth va rentrer chez elle. Elle va expliquer à Naomi sa journée. Elle va expliquer ce qui s'est passé. Et puis, quand elle va expliquer ça à Naomi... Naomi va proposer à Ruth de draguer Boaz. Pourquoi? Parce que quand Naomi a écouté, elle a directement vu ce que Ruth n'avait pas vu. Elle a directement vu que Boaz était quelqu'un d'intéressé. Et parfois c'est ça. Je pense qu'on est tellement dans notre bulle avec nos objectifs qu'on ne voit pas les avances que d'autres personnes peuvent nous faire. On ne voit pas les personnes qui sont intéressées par nous, même si en griffe, elles nous font les... Les appels de phare. Voilà, les appels de phare. Bon, après, il faut dire aussi que si quelqu'un vous fait des avances et que vous ne voyez pas, c'est que peut-être que ces appels de phare sont un peu timides. Donc, c'est... On va dire c'est à deux niveaux. Ou peut-être vous n'allez juste pas considérer ces appels-là parce que vous allez considérer d'office que ce sont des... C'est une relation qui ne peut pas aboutir. Et je pense que parfois, on a besoin de parler à une oreille avisée, à l'ami entre mille, un seul ami entre mille qui va bien vous conseiller pour que cette personne-là puisse attirer votre attention sur des détails qui vont peut-être vous permettre et vous aider d'être en couple et d'aboutir au mariage. Donc, d'où l'importance des bons conseillers, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Voilà. Donc, quand Naomi a parlé à Ruth de la possibilité d'un mariage, Ruth n'a même pas répondu. C'est-à-dire, Naomi lui a fait une phrase en mode... t'as bien travaillé aujourd'hui, mais il faudrait que tu songes à prendre en compte le fait que tu peux te marier avec Boaz, parce que finalement, Boaz, c'est un de mes proches parents, donc il a le droit de rachat sur toi, etc., etc. Ruth a répondu, mais elle n'a même pas répondu à la partie qui concernait le mariage, là.
Elle n'est pas gamée
du tout. Mais comme sa belle-mère lui a dit d'aller draguer Boaz, elle a dit, bon, ok, elle va écouter sa belle-mère, et elle va tenter de séduire Boaz pendant la nuit. Aïe, je vous assure que...
Je vous assure que...
C'est pas que je pense que la Bible est drôle. C'est pas que la Bible est drôle. Mais c'est juste que dans l'Ancien Testament, il y a trop d'histoires qui ont facilement une réalité à vos yeux. Et je pense qu'il y a des histoires que, genre, quand elles sont bien interprétées, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer, genre, à vous-même. En tout, ouais, cas, bref. Donc, Ruth est partie dans la nuit. Je vais chasser du monde. En fait, on rit, mais ça fait pas rire, hein, c'est vraiment sérieux. Elle est partie dans la nuit pour chercher à séduire Boaz, et elle lui a montré d'une certaine façon que elle était prête à se mettre avec lui. Faut savoir que j'ai regardé une vidéo qui interprétait aussi ce livre et qui avait compris cette partie où Ruth est allée séduire Boaz comme, en fait, Ruth est allée se coucher aux pieds de Boaz dans l'espoir qu'il puisse se passer quelque chose. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Boaz va refuser de coucher avec elle. Il va juste vouloir qu'ils dorment ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils la respectent, parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils ne sortent pas ensemble. Voilà! Parce que c'est ça! Et parce qu'ils l'aiment. Et je pense que même si, on va dire, à ce moment, elle s'est oubliée, quoique on ne saura jamais si son objectif premier était de coucher avec lui ou pas, on ne sait pas, je ne pense pas, il ne va pas sauter sur elle parce qu'il ne va pas profiter en guillemets de ce moment d'oubli pour... genre pour faire ce qu'il n'est pas censé faire en fait. Donc voilà, Ruth certes c'est une femme de valeur qui s'est oubliée, mais lui c'est un homme de valeur aussi qui respecte on va dire la loi. Il respecte le fait que ils sont pas mariés, ils doivent pas faire ensemble, et je pense que c'est important. Et parce qu'il veut bien faire les choses, quand ils ont fini de dormir, le lendemain il s'est levé pour dire que bon, lui il veut l'épouser, et il est parti faire les démarches pour pouvoir se marier avec elle. Et Ruth, il faut savoir que Ruth c'est la grand-mère directe de David, donc c'est la maman du papa de David, et donc elle est dans l'arbre généalogique de Jésus. Jésus, bon, on connaît tous Jésus, et puis David contre Goliath, on connaît aussi. Donc voilà un peu l'histoire de ne pas réveiller son amour avant l'heure et de se confier en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je pense que l'amour arrivera au moment où tu t'y attends le moins, donc faut pas te presser. Et si c'est un sujet auquel tu tiens réellement, il faut prier, il faut mettre ça dans tes prières, et Dieu t'enverra, quand tu seras prête, une personne qui te rappellera qui il est. Dans le cas de Ruth, on peut dire aussi qu'elle était veuve. Quand l'histoire a commencé, elle venait de perdre son mari. Bon, elle venait de perdre son mari parce qu'il était mort, donc on va dire que c'était un peu une perte forcée. Mais le truc, c'est qu'il faut voir que c'était peut-être juste pas le mariage que Dieu avait prévu pour elle. C'était juste pas le destin que Dieu avait prévu pour elle, parce qu'il faut savoir que comme à l'époque Ruth ne suivait pas encore Naomi, Ruth était une femme qui ne priait pas. Elle ne priait pas Dieu. Elle était idolâtre, elle devait prier genre les vaches. Ouais. Et oui, comme ça. Et du coup, le truc c'est qu'on peut se dire aussi qu'elle a dû faire un mariage peut-être basé sur les sentiments ou uniquement sur un arrangement entre deux familles, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr c'est que du coup, parfois, quand vous perdez certaines personnes et que ça vous fait mal, ce qui est normal, vous vous demandez pourquoi vous les avez perdues, parce que vous aurez aimé les garder dans votre vie. Là, je parle vraiment de rupture amoureuse. Mais la vérité, c'est que, un peu comme en amitié, ce n'était juste pas les personnes qui vous étaient destinées. C'était pas la personne que Dieu avait prévue pour vous. Et je pense que, quelque part, quand une personne sort de ta vie, qu'elle s'exclut, en fait, de ta vie, ce n'est pas forcément une perte, mais c'est peut-être aussi une sorte d'élément révélateur pour des choses plus grandes qui vont venir. Et ça montre aussi que parfois, dans les relations amoureuses, malheureusement, la première personne avec qui l'on parle, ce n'est pas forcément la personne avec qui on doit finir sa vie. On va dire, c'est une épreuve par laquelle tu passes pour mieux te retrouver toi-même, connaître certaines personnes, te séparer d'elles, et puis ça te permet de mieux savoir ce que tu veux. Donc tu peux en découvrir d'autres, et puis à l'aide de la prière, tu découvres les personnes que Dieu a prévues pour toi, tu découvres la personne que Dieu a prévue pour toi. Mais comme Neysa l'a dit, ça ne veut pas dire aussi que tu dois chercher à passer ta vie à essayer tout le monde pour voir quelle est la chaussure à ton pied. C'est pas ce qu'on a dit, mais ce qu'on a dit, c'est que c'est vraiment important de prier. Et puis quand quelqu'un commence à te parler et que tu es intéressé par la personne, il faut confier ta relation à Dieu. Il faut confier ta relation à Dieu, parce que je vous assure que même si vous allez sur des coins comme TikTok, comme ça, vous tapez dans votre barre de recherche, vous allez voir que toutes les personnes qui ont fait une prière en mode « Oui, Seigneur, si c'est pas le bon, montre-moi un signe. » Le signe est venu très, très, très vite.
Et en express.
En express. Donc, à cause de ça, on dit, si je n'ai pas prêt là.
Faut pas demander de... Non, vraiment, t'es bien
mal. Si tu n'es pas prêt, faut pas te demander. Mais tout ça pour vous dire que Dieu a des projets de bonheur pour vous, et il ne veut pas que vous finissiez votre vie seule. En tout cas, si c'est votre destin d'être marié, vous allez finir par vous marier. Maintenant, le truc aussi, on a le libre arbitre, donc c'est de faire le bon choix, le choix de Dieu. Donc, priez. Et du coup, l'air de rien, Ruth et Boaz, c'est un mariage mixte, parce que c'est une Moabite et un Israélite qui se marient. Donc on va doucement se glisser dans le concept du mariage mixte pour arriver dans le concept du mariage, du couple chrétien-musulman. Même si ici, comme on a dit, on prône le mariage, on ne prône pas les relations à côté à côté.
Oui,
voilà. Donc moi, déjà, je pense que le couple chrétien, musulman n'est pas quelque chose de proscrit. Et je pense que comme dans toute mixité, c'est important d'avoir une base commune forte pour mieux avancer main dans la main. Et je pense aussi que ça demande de faire preuve d'une grande tolérance. Parce que la tolérance, c'est vraiment important. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un pour imposer tes idées. C'est pas... Ouais. Bref. C'est pas ça
c'est
le
but. C'est pas gentil, en fait.
C'est pas sympa. C'est pas cool et branché. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'était mon petit mot par rapport au couple mixte. Maintenant, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dessus.
En fait, bien avant de parler du couple mixte, déjà... J'aimerais revenir un peu, peut-être que je fais une petite digression, mais étant donné que je n'avais pas développé le fait que les relations hors mariage, parce que c'est comme ça que c'est appelé, les relations hors mariage étaient interdites, je voulais quand même commencer par donner le verset qui explique ça, et les raisons pour lesquelles c'est interdit, et dans le cas contraire, dans ce cas-là, si c'est interdit, comment faire pour connaître la bonne personne avant de la marier, parce que c'est interdit, faut bien que tu connaisses la personne pour
tant
la
mieux marier. Même comme ça on continue dans cette histoire de vous êtes célibataire et vous cherchez la bonne personne.
Ouais, c'est
vous
ça,
cherchez la bonne personne. Ok,
alors déjà, comme je vous l'ai déjà dit et je le répète, les relations hors mariage, dans le sens où tu es célibataire et tu décides de te mettre en couple avec un homme ou une femme avant de te marier, sont interdites dans l'islam. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Le verset pivot, le verset important, il montre cela. Sourate 17, verset 32. On nous dit dans le Coran, « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » C'est-à-dire que dans ce verset...
Attends, je vais chercher ce que signifie turpitude même. Parce qu'après, ils vont faire comme s'ils n'ont pas compris parce qu'ils...
C'est ça. Faut définir.
Ok.
Non, je pense que c'est genre... C'est quand même un autre mot pour dire péché, mais genre...
Ouais, c'est ça. Et turpitude. Bon, ok, je vous lis la définition de turpitude. Turpitude, laideur morale. Ignominie qui résulte d'un comportement indigne, d'un comportement honteux. Synonyme, déshonneur, honte, infamie, vilaine. Vilaine.
Ah, vous voyez comment il y a beaucoup.
Vilainie, bassesse. Ok, vous savez, vous ne pouvez plus dire comme c'est parce que ça veut dire turpitude. Voilà, donc la turpitude. Vas-y, Nissa.
Dans ce verset, on nous dit « Et n'approchez point la fornication ». On ne nous dit pas « Ne forniquez pas ». On ne nous dit pas on ne nous dit même pas ne faites pas la fornication. On ne dit n'approchez pas. Quand on dit n'approchez pas la fornication, c'est-à-dire que le chemin qui va te pousser à forniquer là, faut pas te mettre dessus. Et le chemin c'est quoi? Le chemin c'est quoi? Mes amis, vous êtes intelligents. On n'a pas tout vous dit, vous n'êtes pas des enfants. Le chemin, ce sont les relations hors mariage. Parce que aujourd'hui, qu'on se le dise, tu es avec ton gars, vous êtes ensemble, vous levez bien chic. Arrivé à un moment là, vous allez forcément parler de ce sujet. Ce sujet forbidden for tout ce qui est pas bon.
Ce sujet
qui fâche, ce sujet interdit aux enfants.
Ça tombe tellement à pic parce que c'est justement la partie qui va venir.
Calmez-vous.
Tu vois, le verset que tu as choisi là, c'est, en fait, la preuve que Nice et moi, on est habitués à parler d'amour, c'est que le verset que moi j'ai choisi, c'est sensiblement, en fait, c'est la même idée. C'est la même idée que le verset que tu as choisi.
C'est ça.
Fuyez la tentation.
Fuyez.
C'est la...
Fuyez la tentation.
On n'a pas demandé de combattre la tentation. Parce que c'est aussi un truc qu'il faut noter. Il y a des gens qui se disent, non, la chose va se présenter à moi, je vais gérer la situation, je vais pouvoir genre...
C'est doi.
On vous dit fuyez, on vous dit ne cherchez pas à combattre la chose, ne cherchez pas à vous mettre, comme Nessie a dit, sur la route de la chose. Et puis vous pensez que genre à la dernière minute, vous allez
gérer.
Vous allez esquiver ça. Vous allez activer ça, vous allez vous en
sortir. Le diable est malin.
Okay. Il y a des trucs quand vous voyez là. On vous demande de prendre vos jambes à votre cou.
Fuyez.
Donc vraiment c'est ça. Concernant les relations sexuelles, comme Nice elle a dit, pardonnez, fuyez. Ne vous mettez pas sur la route. Débrouillez-vous pour ne pas être confronté à ça. Parce qu'il y a des chemins que vous-même vous empruntez. L'air de rien, vous savez quand même au fond de vous à quoi ça va mener. Donc, prenez la fuite. Je le dis.
Ne pensez même pas à ça.
Franchement.
Parce que dès l'instant même que c'est dans votre tête là, le diable va faire en sorte de peaufiner cette idée là, vous donner des idées en mode. Mais si tu faisais là, ça fait rien.
Ah.
Oh, tu as fait un peu ses mains.
Voilà, puis, c'est ça.
Tu as fait. Non. Donc,
et c'est pour ça que.
Comme j'ai dit.
Vas-y.
Comme j'ai dit, les relations amoureuses de nos jours, on connaît, on sait, on a entendu, on a vu. C'est clair que quand tu es avec un gars, tu es avec ton gars, vous allez lover. Et en plus de lover, vous allez parler de ça. Et même dans la période de flirt là, genre, vous adoptez... Attends, pause. On dirait qu'ils sont en train de faire palabre devant, hein. I was looking for God. I was searching.